tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du samedi politique. Voilà déjà 3 semaines que Donald Trump et Benjamin Netanyahou ont lancé l'offensive contre l'Iran. 22 jours plus tard, Téhéran tient toujours et le président américain oscille entre déclarations de toute puissance, mais aussi demande d'intervention à ses alliés. Et en attendant, la crise énergétique est donc économique est en train de devenir une réalité pour le monde entier. Alors peut-on encore sortir de la spirale? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Mais avant toute chose, n'oubliez pas les petits coups de pouce. Et puis bien sûr, écrivez-moi juste en bas dans les commentaires. À tout de suite. Et à mes côtés pour cette émission, le colonel Jacques Hogard. Jacques Hogard, bonjour.
Bonjour, chère Élise.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ancien officier de la Légion étrangère. Vous avez servi notamment lors de l'opération turquoise au Rwanda en 1994, au Kosovo en 1999. Vous avez publié plusieurs ouvrages, notamment « L'Europe est morte à Pristina » chez Hugo Doc et également chez le même éditeur « La guerre en Ukraine, regard critique sur les causes d'une tragédie ». Évidemment, ces ouvrages sont disponibles sur la boutique de TVL, sur tvl.fr. Alors pour commencer cette émission, colonel Hogard, nous sommes donc 3 semaines, comme je l'ai dit, après le début des frappes lancées par Trump et Netanyahou sur l'Iran. Quel regard portez-vous sur cette opération? Et puis surtout, considérez-vous aujourd'hui que Washington est toujours à la manœuvre?
Alors, bonne question, parce que je ne sais pas si Washington a jamais été à la manœuvre dans cette affaire. Je pense même qu'elle a suivi, un mot fort, servilement Israël dans cette guerre qui a été déclenchée par Netanyahou et que Trump a suivi très rapidement, en fait. Alors, je pense que c'est d'ailleurs le point de départ qui lui vaut aujourd'hui à Donald Trump d'être fortement contesté aux États-Unis et d'être fortement contesté jusque dans son camp initial. On voit un journaliste comme Tucker Carlson, qui est un de ses proches défenseurs et promoteurs pendant la campagne présidentielle, qui est aujourd'hui en rupture de banc avec Donald Trump. On le voit aussi avec cette femme qui est ancienne députée, Carrie Prejean-Boller, qui dit qu'en restant amie de Trump, elle ne comprend plus et qu'elle ne le suit plus, et qu'elle dit même que le mouvement MAGA, qui a porté Trump quand même au pouvoir, est mort. Donc on voit que ça ne va pas être sans conséquences. Vous avez parlé, vous avez évoqué dans votre introduction les conséquences économiques pour le monde qui sont réelles. La crise énergétique arrive de plein fouet, avec derrière la crise financière, etc. Mais pour Trump, en tout cas, je pense que c'est une erreur stratégique qu'il a faite en se lançant dans cette guerre, qui est en train de se retourner contre lui. Les Américains, alors indépendamment de la guerre de propagande qui fait rage, tous les jours on entend des cris de victoire de Trump et de Netanyahou, mais en réalité, je pense que loin des médias occidentaux qui sont un peu aveugles sur cette guerre et sur la réalité qui est celle au quotidien d'Israël et de l'Iran aussi, bien sûr, mais d'Israël et des bases américaines de la région et des pays de la région, c'est une très mauvaise affaire, en fait, je pense. Seul Netanyahou, dans une espèce de fuite en avant, avec un espèce de comment dirais-je, d'inspiration messianique, peut espérer tirer quelques avantages de cette guerre, mais c'est le seul aujourd'hui. Et encore, je ne suis même pas sûr que cette volonté d'aller si loin et si brutalement, avec tant de violence et tant d'effets collatéraux immenses, n'amène pas même l'existence d'Israël à être en jeu à un moment donné. Donc voilà mon avis sur ces 3 semaines de guerre qui ne se passe pas en réalité sur le terrain, comme on veut bien le dire dans nos médias principaux.
– Alors justement, vous avez parlé des cris de victoire tout à l'heure, ce que je vous propose, c'est d'écouter celui de Donald Trump assez récent.
– Je tiens simplement à dire que la guerre se déroule de façon très, très favorable. Nous nous en sortons très bien. L'Iran, on est en train de les démolir et il faut le faire. Nous ne pouvons pas les laisser avoir une arme nucléaire. Ils étaient à 2 semaines, à mon avis, à 2 semaines d'une arme nucléaire.
Bon, alors au-delà d'un très net satisfecit, hein, on est en train de les démolir, dit-il. Il revient sur cette affaire de la menace nucléaire et donc du développement du nucléaire militaire de la part de l'Iran. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Alors moi, d'abord, je regarde ce qui se dit chez les Américains à ce sujet. Joe Kent, qui était le directeur du Centre national de contre-terrorisme américain, a démissionné avec fracas. Sa lettre est publiée, on la trouve sur YouTube facilement, et il dit très clairement qu'il n'y avait aucune menace nucléaire, militaire, nucléaire, et aucune menace pour les États-Unis d'Amérique. Alors, je pense que son avis est à prendre en compte. Il n'est pas le seul hein, à le dire aux États-Unis. Moi, je connais un peu l'Iran pour m'y être rendu un certain nombre de fois pendant toute la période, d'ailleurs, entourant l'accord nucléaire de 2015 et sa dénonciation par les États-Unis en 2018, qui avait fait un peu l'effet d'un séisme en Iran, où les gens pensaient qu'on allait enfin sortir de la période des sanctions, que l'Iran allait pouvoir rejoindre les nations…
Presque la normalité.
La normalité, voilà, exactement. À cette période, j'ai beaucoup fréquenté l'Iran, jusqu'en 2020. Le Covid m'a un petit peu amené à m'éloigner ensuite, mais j'ai rencontré des dirigeants iraniens, j'ai rencontré des intellectuels iraniens, j'ai rencontré des journalistes iraniens, et on m'a rappelé, en fait, parce que je fais pas forcément toutes ces connaissances, mais on m'a rappelé que le fait nucléaire en Iran, l'inspiration du Shah qui avait lancé le nucléaire en Iran, que ce nucléaire en Iran avait été stoppé brutalement par l'ayatollah Khomeini en 79 au moment de la révolution islamique, tout simplement pour des raisons religieuses et morales, pas de nucléaire militaire, fatwa, et que l'ayatollah Khamenei, son successeur, avait renouvelé cette fatwa. Donc, je me souviens, nous y étions allés avec un petit groupe plus ou moins proche de l'Institut Charles de Gaulle à l'époque, ce qui nous donnait une couverture très intéressante vis-à-vis des Iraniens, parce que la personnalité de Charles de Gaulle était très appréciée en Iran, en tout cas à l'époque. Et nous avions abordé cette question, en particulier lors d'une réunion, on était quelques personnes avec un personnage très décrié en Occident, qui est l'ex-président Ahmadinejad. Et Ahmadinejad, qui n'était pas un religieux, qui était un politique, nous disant mais il est hors de question que nous nous lancions sur la piste de l'arme nucléaire. Alors, était-ce réel, était-ce de la dissimulation, était-ce un discours, ça c'est, on peut en discuter. Mais moi, personnellement, ma conviction est que l'Iran voulait absolument le nucléaire civil pour développer ce pays qui est, je rappelle quand même, immense, 90 millions d'habitants, une population très éduquée, un centre de recherche à une quarantaine de kilomètres de Téhéran qui s'appelle Pardis, qui est un peu la Silicon Valley de l'Iran, une industrie qui, malgré les sanctions, a toujours survécu à tout, et des capacités de recherche évidentes, une population encore une fois très éduquée, et on le voit avec les universités qui sont pleines, et notamment de jeunes filles ou de jeunes femmes. Plus de 60% des étudiants sont des femmes, en fait, des dirigeants d'entreprises, etc. On a des idées fausses, en fait, sur l'Iran, beaucoup d'idées fausses. Mmh. Et moi, j'étais assez enclin à penser que… tout au moins jusqu'à maintenant, l'Iran ne voulait pas aller sur cette voie. Peut-être que les événements actuels font évoluer les esprits, hein, chez eux. –
A plus de raison qu'on sait qu'Ali Khamenei a été tué au début des frappes et qu'il n'est pas obligatoire que son fils souhaite reconduire cette fatwa.
– Bien sûr, et on va voir les choses évoluer. Et moi je crois que la responsabilité de l'Occident est quand même très lourde dans l'évolution de ce pays et dans sa radicalisation, si je puis dire, et dans sa volonté, qui est à mon avis très forte, de se défendre jusqu'au bout, hein, de ne pas se plier aux diktats américains ou a fortiori israéliens.
Alors pour rappel, bien sûr, cette offensive américano-israélienne est arrivée alors que des négociations étaient encore en cours sur cette question du nucléaire notamment. Oui. Et beaucoup de commentateurs estiment que, côté américain, les émissaires de Donald Trump, à savoir Witkoff et Kushner, qui est son gendre, ne souhaitaient pas arriver à un accord.
Vous savez, moi je pense que l'histoire ne cesse de se répéter. Donc les Iraniens sont ulcérés. Parce que ce n'est pas la première fois que, au cours des négociations, tout d'un coup, rupture des négociations et attaque violente et brutale. Donc ça s'est passé l'an dernier, en juin dernier, il y a eu la guerre des 12 jours, qui n'a pas été sans effet d'ailleurs en termes de destruction dans tous les domaines sur Israël, et qui a amené à un moment donné la partie américano-israélienne à lever les pouces et à dire on stoppe, on arrête. Bon, un an après, il recommence, et c'était le même schéma avec des négociations qui étaient en cours en Oman. Alors, on voit les réactions aujourd'hui du ministre des Affaires étrangères d'Oman et du sultan d'Oman qui commencent à en avoir assez d'être pris un peu pour des figurants. Hein. Ils veulent bien faire des efforts.
Des figurants qui font office de dommages collatéraux aussi.
Mais bien sûr, parce qu'en plus, ils sont réprimés à leur tour par l'Iran, alors que ce sont au départ, je dirais, c'est la position. La plus intermédiaire entre les américano-israéliens et l'Iran, c'est les diplomates nés.
Ils n'ont pas trop le choix d'ailleurs, géographiquement.
Non, ils n'ont pas le choix, bien sûr, ils n'ont pas le choix. Mmh. Ils sont une position géographique à la fois stratégique et qui les met en position de faiblesse et contraignante, bien sûr. Mais voilà, donc, je pense. Et si vous voulez, si on prend d'autres conflits. C'est l'habitude un peu des Américains. Hein. Regardez ce qui s'est passé en 1999 avec les négociations de Rambouillet pour la Serbie, pour le Kosovo. On utilise une phase de négociation comme prétexte et on la rompt brutalement sous un nouveau prétexte imaginé. Là, c'était la menace militaire nucléaire imminente, qui est faux et dont tout le monde convient aujourd'hui qu'elle est fausse. Mais c'est comme vous savez, la petite fiole du général Powell pour l'Irak à une époque. Les Américains sont coutumiers de ce genre de procédés et ça ne donne pas vraiment envie de les avoir pour alliés, pour ne pas reprendre la fameuse citation de je ne sais plus quel penseur américain. Il vaut mieux être carrément un ennemi des Américains qu'un ami. Hein. On sait à quoi s'en tenir si on est un ami des Américains. Ça vous retombe toujours dessus. Donc voilà, donc franchement, je pense qu'il faut remettre les choses à leur place.
Alors justement, remettre les choses à leur place, éventuellement penser à un accord, à de nouvelles négociations, comme ça avait été le cas après la guerre des 12 jours, vous l'avez rappelé. On voit quand même que Ali Khamenei a été tué, une bonne partie de sa famille, donc une bonne partie de celui qui a pris sa suite, Mojtaba Khamenei. On voit que le patron des gardiens de la révolution, Ari Larijani, est mort. On voit
également secrétaire du Conseil de sécurité. Voilà. Ce qui est encore plus important.
Oui, ouais. Il était incontournable et travaillait de concert tout le temps avec Khamenei. Oui. Le patron du renseignement iranien l'a récemment aussi déclaré mort.
Du renseignement gouvernemental, pas du renseignement des gardiens. Parce que c'est très complexe.
Heureusement que vous êtes là pour préciser.
Non, mais c'est important parce que.
C'est très complexe, précisément, et c'est ma question. Oui. Et malgré toutes ces disparitions, on voit que le pouvoir iranien poursuit sa route, poursuit sa riposte. Et. Montre une organisation extrêmement résiliente, notamment parce qu'elle est régionalisée, sauf erreur de ma part.
Oui.
Comment expliquez-vous ça
sur elle est à la fois régionalisée et centralisée, mais ils ont bâti un système, ils appellent ça une constitution, c'est plus qu'une constitution, c'est un système en fait, qui est à mon avis extrêmement sophistiqué et qui permet de démultiplier les centres de pouvoir et d'exercice du pouvoir de manière très, très efficace et opérationnelle. Donc je pense que quand Netanyahou ou Trump poussent des cris de victoire parce qu'ils ont assassiné quelques personnalités importantes, très importantes, de l'ensemble de commandement iranien, commandement civil et militaire, et bien en fait, Il ne touche pas le cœur du fonctionnement du système iranien. Ce système est, il y a quelques 7 organismes principaux qui détiennent une fraction du pouvoir iranien.
Ça fait penser un peu à la blockchain.
Oui.
Quelque part.
Oui, ben tout à fait, exactement. L'image est bonne. En réalité, avant de détruire cet appareil qui est extrêmement, si vous voulez, il ne faut pas prendre les, je vais être brutal, il ne faut pas prendre les Iraniens pour de vulgaires bédouins du désert d'Arabie. Ce sont des Perses avec une antique civilisation derrière eux, avec une érudition, une culture générale, et des connaissances en particulier scientifiques très très poussées.
On l'a vu avec Harry Larijani qui était un spécialiste d'Emmanuel Kant.
Oui, trois livres sur Emmanuel Kant. Je n'ai pas lu les œuvres de Netanyahou ou de Trump en contrepartie, mais il faut
pas. Cela dit, pardon, colonel, de vous interrompre. Oui. Mais l'érudition n'empêche pas la dictature, l'autoritarisme, etc.
Là n'est pas la question. C'est sûr que le régime iranien est dur. On vient de le voir avec la pendaison de ces trois jeunes gens qui viennent d'être convaincus d'inimitié avec Dieu. Et c'est un régime théocratique. Et ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles, je pense, l'Occident les hait tant. Aujourd'hui, c'est qu'ils ont un positionnement qui n'est pas du tout le nôtre aujourd'hui. Nous, c'est le suffrage universel, c'est éventuellement le wokisme un peu parce que ça fait encore plus progressiste, etc. Une des raisons pour lesquelles Poutine aujourd'hui est braqué contre l'Occident, c'est notre gauchisme en fait, notre progressisme aujourd'hui. Mais il faut voir les choses. Alors ne parlons pas des Iraniens parce que eux s'appuient en plus sur une structure qui est extrêmement religieuse. Alors je ne dis pas que le régime n'est pas dur, et je pense que tout ce qui se passe l'encourage à devenir de plus en plus dur. Alors qu'il y a eu des occasions manquées, si vous voulez. Je pense à 2018, quand Trump, premier mandat, rompt l'accord nucléaire, au grand détriment d'ailleurs de tout le monde, mais les Iraniens les premiers, c'est parce qu'il y avait une véritable ouverture et ce pays pouvait rejoindre le concert des nations de manière paisible et assumée. Eh bien, on a cassé cet élan volontairement. Donc, je ne cherche pas à défendre, évidemment, mais moi je dis que l'Iran a le droit de vivre en paix. Et de choisir ses institutions, qui sont les Américains et les Israéliens pour imposer à l'Iran un régime dont ils ne veulent pas. On a parlé de l'impopularité de ce régime, mais il faut voir les foules immenses et monstrueuses, d'une certaine manière, qui ont manifesté après la mort de l'ayatollah Khamenei, etc. Donc, c'est pas si simple.
Une offensive telle que celle qui est menée aujourd'hui, c'est aussi le meilleur moyen de rendre plus patriote et donc de fait.
Mais moi, je pense que ça consolide. En fait, je pense qu'au lieu de fragiliser le régime, ça le consolide. Il y a un fort nationalisme iranien qui existe. Moi, j'ai rencontré en Iran des chrétiens iraniens, des juifs iraniens, qui ont droit de cité, qui ont leurs églises, leurs synagogues, et qui m'ont dit « mais nous sommes iraniens ». Et si on touche à l'Iran, on nous touche à nous. Et nous mourrons pour l'Iran. Des juifs et des chrétiens. Donc, si on n'est pas capable de comprendre ça, et je pense que c'est le gros défaut de l'administration américaine, y compris de Trump, ce qui est pour moi une grosse déception, parce que j'espérais qu'avec Donald Trump, on aurait quelque chose de plus étayé, de plus solide, de plus réfléchi que Joe Biden et ses prédécesseurs. Mais en fait, grosse déception, parce que en réalité, l'administration américaine n'a absolument aucune idée de ce qu'est l'Iran de l'intérieur. C'est quand même bien dommage. Quand vous voyez cet excité qui est Pete Hegseth, le secrétaire d'État à la Défense, il y a de quoi être inquiet, si vous voulez. Quelle est l'analyse qui a été faite? Alors on voit bien que Trump, d'ailleurs, maintenant commence à dire « Ah oui, c'est eux qui m'ont conseillé d'aller faire la guerre ». Mais enfin, c'est quand même dramatique.
C'est lui qui décide, bien sûr.
Quand on se prétend être la première nation au monde, en tout cas du monde occidental, d'agir sur aussi peu de réflexion stratégique, de vision que celle-là. Là, on est en train de provoquer peut-être une guerre mondiale. Pourquoi finalement ?
On est revenu tout à l'heure justement sur cette notion de menace imminente vis-à-vis de cette bombe atomique, concrètement, que les Iraniens auraient été en train de façonner. Ce que je vous propose, c'est de regarder une audition des patrons du renseignement, notamment de Tulsi Gabbard, qu'on va entendre, oui, par le Sénat américain. Elle était interrogée par un démocrate, élu en Géorgie, John Ossoff.
Vous êtes ici pour représenter l'évaluation des menaces par la communauté du renseignement. C'est une citation de votre propre déclaration d'ouverture. Et ma question est donc alors que vous êtes ici pour présenter l'évaluation des menaces par la communauté du renseignement. Était-ce l'évaluation de la communauté du renseignement que, comme l'a affirmé la Maison-Blanche le 1er mars, il y avait une citation « menace nucléaire imminente posée par le régime iranien » Oui ou non ?
Encore une fois, sénateur, la communauté du renseignement a fourni les éléments qui composent cette évaluation annuelle des menaces. C'est sur la nature de la menace imminente que le président doit prendre cette décision en se basant sur une collecte et un volume d'informations et de renseignements qui lui sont fournis.
Vous êtes ici pour être opportun, objectif et indépendant des considérations politiques.
C'est exactement ce que je fais.
Non, vous évitez une question car fournir une réponse franche au comité contredirait une déclaration de la Maison-Blanche.
Bon, soit dit en passant, on a quand même une impression, c'est qu'aux États-Unis, il y a quand même un débat contradictoire qui est possible. C'est pas forcément toujours la même chose en France,
soit non, dit en passant. Non, vous avez raison de le souligner, et y compris dans le camp présidentiel. Nous, on est un petit peu, j'irais, stérilisés, hein, notre pensée stratégique est stérilisée. Il y a pas de, on est complètement alignés aujourd'hui. Alors, on voit bien que la France est malade au niveau le plus élevé. N'en parlons pas de l'Europe, mais on voit que les choses bougent. Vous voyez, par exemple, j'ai vu que le gouvernement suédois prenait des distances très claires et très nettes vis-à-vis d'Israël, pour la première fois. Alors nous, on est toujours un petit peu en même temps entre deux eaux, hein. C'est la méthode Macron. Je pense que c'est pas la bonne méthode. Je pense que pourquoi a-t-on été déployé notre porte-avions, le Charles de Gaulle, au large des côtes du Proche-Orient il y a quelques jours, juste avant la mort de cet adjudant-chef Arnaud Frion. Moi, quand un soldat français meurt, tué, non pas au combat, car il n'était pas au combat, mais en mission, pour moi, c'est toujours une grande source d'émotion. En plus, c'était, je crois, un type vraiment très bien, un sous-officier d'élite. Vous savez, nous, on a nos codes. La croix de la valeur militaire avec quatre citations, ça veut dire quelque chose, hein. Et ce garçon a été tué par un groupe chiite irakien, donc un féodé, plus ou moins, mais plutôt plus que moins, à l'Iran. Et je pense sans consigne de l'Iran. C'est des réactions locales de gens qui ont réagi à ce déploiement qui a servi à quoi, mon Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ?
On n'a pas. On a, ce que vous voulez aussi, dire, c'est que vous pensez que c'était ostensiblement la France qui était visée, non pas.
Oui, je pense que oui, parce que c'est une base de formation. Et alors le pire, c'est que cet adjudant-chef et ses camarades sont dans une mission, impliqués dans une mission de formation anti-Daesh. Bon. Et que font les groupes chiites irakiens, si ce n'est de combattre Daesh ? Là aussi, il y a tellement d'idées fausses. Moi, j'ai visité à Téhéran, il y a quelques années, un cimetière militaire, à la sortie de Téhéran, où il y a quelque chose comme 8000 à 10000 tombes de jeunes Iraniens tombés au combat les années précédentes, contre Daesh en Syrie. On mélange tout et on oublie ça. Donc nos positions sont, nous aussi, manque de réflexion stratégique et de vision globale, honnête. La géopolitique, c'est une science qui est réaliste. Je voyais ce matin encore une réaction à propos de l'Arménie, mais quel est le meilleur soutien de l'Arménie aujourd'hui, le meilleur allié militaire de l'Arménie? C'est l'Iran. L'Iran des fameux mollahs, des ayatollahs. Non mais il faut le dire parce que le meilleur ami et allié de l'ennemi de l'Arménie, qui est l'Azerbaïdjan, Eh bien, c'est Israël. Et quand le Haut-Karabakh a été épuré ethniquement, il y a maintenant 3 ans ou 2 ans, le président Aliyev a remercié publiquement Netanyahou, Tsahal et le Mossad d'avoir permis, par leur action décisive, l'épuration du Haut-Karabakh. Alors je pense qu'il faut rappeler ça aux gens, parce que nos vues simplistes et nos amalgames un peu hasardeux vus de loin me choquent profondément.
J'aimerais qu'on continue sur cette affaire de menaces et qu'on en termine, colonel Hogard. On l'a vu, effectivement, on a du mal à savoir si effectivement les Iraniens voulaient, ne voulaient pas. En tous les cas, il est fort peu probable qu'ils soient à 2 semaines de développer l'arme nucléaire. Toujours est-il que, quand bien même, allais-je dire, pour les États-Unis, le risque était plutôt modéré au vu, là encore, de la géographie. Il n'en reste pas moins qu'on ne peut pas nier que ces deux pays adversaires que sont l'Iran et Israël représentent une menace respective.
Non, mais si vous voulez, y a eu une époque où l'Iran des ayatollahs était assez active à l'extérieur. Elle l'a été de moins en moins. Si vous voulez, les attentats en Europe, ne serait-ce qu'en Europe, du clan iranien remonte maintenant à quelques décennies. Hein. Et depuis, finalement, ils se sont imposés en tant que puissance régionale. Alors bien sûr, il y a l'axe chiite, l'axe de la résistance chiite en particulier, qui s'est établi et qui allait du Liban à Oman, en passant bien sûr par la Syrie alliée de Bachar el-Assad, et puis on voit ce qu'il en est aujourd'hui. Alors c'est intéressant aussi parce que bien sûr qu'il y a une menace, mais la menace israélienne me paraît plus évidente aujourd'hui que la menace iranienne. Qui attaque, si ce n'est Israël? Il y a un an, c'est Israël qui a attaqué, et maintenant, c'est Israël qui attaque. Donc,
Israël considère que l'Iran était…
Oui, une menace immédiate.
Mais au-delà de ça, était aussi un peu commanditaire de certaines milices qui ont agi lors du 7 octobre.
Oui, alors l'Iran a toujours soutenu le Hamas et les Palestiniens de manière générale. Et ça, c'est un vrai sujet aussi, parce que qui a créé le Hamas? Qui a encouragé la création du Hamas, si ce n'est Netanyahou, pour contrebalancer l'autorité palestinienne,
le Fatah.
Bon. Donc le Hamas, c'est une création israélienne. Je pense qu'il faut rappeler des choses aussi qui sont politiquement incorrectes, qui font mal, mais qu'aucun service de renseignement ne démentira.
– Rappelons à nos téléspectateurs qu'il y a des déclarations publiques, hein, y compris de Netanyahou, qui le dit.
– Qui le disent, oui. Vous voyez, il y a autre chose qui me frappe dans la région. Alors, bien sûr que l'Iran reste une puissance. On dit que l'Iran est derrière le Hezbollah. Bien sûr qu'il y a des liens entre l'Iran et le Hezbollah. Ça faisait partie de cet arc chiite que j'évoquais à l'instant et qui incarne ce qui reste de l'axe de la résistance, pour reprendre leur terminologie, bien sûr. Mais tout ça, il y a des raisons, il y a des causes profondes. On voit les effets, on ne voit jamais les causes. Et moi, je prétends qu'en matière géopolitique et politique tout court et diplomatique, il faut aller aux causes. Il ne faut pas se limiter aux effets. Les effets peuvent être dramatiques, mais pourquoi ne s'intéresse-t-on pas aux causes des choses? Quand vous voyez aujourd'hui le président de la nouvelle Syrie, ce terroriste issu des rangs de Daesh, que nous avons aidé avec le groupe Al-Nosra, quand M. Fabius disait qu'il faisait du bon travail en Syrie, cet homme qui a les mains couvertes de sang, qui est un pur islamiste, un pur djihadiste, aujourd'hui, qui lui déroule le tapis rouge? Trump? Netanyahou? Au point que certains disent que c'est un agent du Mossad. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Non, je ne sais pas.
Mais, on a tout entendu. Hein, on a aussi entendu que Donald Trump était agent du KGB. Hein, donc on est
oui,
plus après. Hein.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais ce n'est pas les mêmes qui disent l'un
certes,
et l'autre.
Mais enfin bon.
Mais c'est vrai qu'on entend tout tout est son contraire aujourd'hui. Bah, on est dans une guerre de propagande. Propagande
avec un S.
Propagande avec un S qui se combattent et qui se. On le voit bien tous les jours en ce moment avec, avec cette guerre en Iran. Mais si vous voulez faire d'Al-Joulani un président démocrate fréquentable en complet veston, la barbe bien taillée, etc., je pense que c'est une fiction. Hein, c'est, une, c'est encore une imposture. Bon, une imposture qui est validée par les mêmes, par les Américains, par les Israéliens, et même derrière à la traîne par nos pauvres Européens et notre pauvre président Macron, qui le reçoit avec un tapis rouge à l'Élysée. C'est pitoyable tout ça, c'est pitoyable. C'est où est passée la France, quoi? Où est passé mon pays? On ne juge pas ces événements à l'aune de nos intérêts nationaux, qui devraient être notre seule règle, notre seule, je dirais, boussole, balance de justice, presque. Ou notre seule boussole. Oui. On la juge avec de l'émotion, du renversement de veste, de l'incohérence totale, etc. C'est ça qui est dramatique, à mon avis.
On a évoqué tout à l'heure ce fameux journaliste Tucker Carlson qui soutenait Donald Trump pendant la campagne. On a évoqué également ce patron du contre-terrorisme américain, Joseph Kent, qui a donné sa démission à cause de cette intervention. Je vous propose d'écouter un extrait de leur interview.
Les Israéliens ont été à l'origine de la décision d'attaquer l'Iran. Et nous savions qu'elle entraînerait une série d'événements impliquant que les Iraniens riposteraient. Je pense qu'à ce moment, nous aurions pu faire plusieurs choses. Nous aurions pu simplement dire aux Israéliens, non, ne le faites pas. Et si vous le faites quand même, nous vous reprendrons quelque chose. Je pense que c'est bien d'avoir offert de défendre Israël. Mais si nous leur fournissons les moyens de leur défense, alors il faut que nous puissions imposer les conditions de leurs offensives. Sans quoi, ils perdent cette relation. Et les Israéliens se sont sentis en position de force, peu importe ce qu'ils ont fait, peu importe la situation dans laquelle ils nous ont mis. Ils ont pensé qu'ils pouvaient juste débuter cette action et que nous aurions juste à réagir. Cela montre qu'il y avait un lobby qui poussait pour nous mener à la guerre.
Alors, ce que je vous propose, c'est de ne pas revenir sur ce dont on a déjà parlé, qui voulait essentiellement entrer en guerre contre l'Iran, mais plutôt d'aller sur cette question du faire, de comment cette guerre s'est organisée, parce qu'on a le sentiment quand même petit à petit que ça n'a pas été très bien organisé. Et comment vous voyez les choses, vous, colonel Hogard? Vous avez déjà participé à des conflits. Oui. Est-ce que quand une guerre est lancée, on prévoit non pas seulement le mode opératoire pour attaquer, mais aussi
ben, il faut une vision, la réponse pour répondre à votre question, il faut une vision stratégique. Or, je pense que, comme c'est suggéré là par ce qu'on vient d'entendre à l'instant, je pense que Netanyahou a une vision stratégique. C'est la grande différence entre les Israéliens et les Américains. Et Trump n'a pas de vision stratégique. On le voit bien, d'ailleurs, il est perdu depuis quelques jours. Il dit tout et son contraire en fonction des moments et des impressions, des émotions qu'il peut ressentir, etc. Ça, c'est pas conforme avec la planification d'une véritable stratégie qui a un but derrière. C'est une vieille histoire, mais il n'y a pas d'opération militaire qui ne réussissent sans but stratégique supérieur, sans but même politique supérieur. Or, quel est là l'objet? Il a évolué, il a oscillé côté américain. Rappelez-vous, au début, c'était « on va faire tomber ce régime Oni ». Bon. Alors ça, c'est certainement le but de notre ami Netanyahou. Certainement son but, fragmenter l'Iran. Il existe des communautés qui sont très différentes. On a vu qu'ils essayaient, le Mossad essayait de soulever les Kurdes iraniens. Il y a les Azéris iraniens. Il y a un certain nombre de minorités qui peuvent être des espèces de leviers. On voit que ça, c'est la stratégie israélienne, c'est exploser l'Iran et exploser ce régime. En face, je pense que Trump a réagi simplement par les liens qu'il a privilégiés avec l'État d'Israël et avec Netanyahou, sans l'ombre d'une réflexion stratégique. Et il s'est lancé dans cette guerre et il voit maintenant Quelles vont en être les conséquences qui peuvent être. C'est pour ça qu'il demande à Netanyahou d'arrêter de frapper les complexes énergétiques iraniens, comme ils l'ont fait à South Pars récemment, qui est une hérésie absolue. La riposte n'a pas tardé côté Qatar, des Iraniens bien sûr, créant une crise énergétique qui va amplifier, à mon avis, pétrole et gaz. Et Trump maintenant le comprend, mais à retardement. Bah, je suis désolé, un état-major qui travaille sérieusement ne se limite pas à la partie purement militaire des opérations. Et encore, il y aurait beaucoup à dire parce que je pense que les stocks de munitions, et en particulier de munitions défensives, les munitions qui permettent d'intercepter les missiles, sont un petit peu. La défense antiaérienne est un petit peu maintenant à court de munitions. Il s'est fait détruire des radars qui coûtent chacun, quatre radars qui coûtent chacun $1 milliard, qui permettaient d'avoir une vision exacte et permanente sur la région, etc. Et puis c'est une guerre asymétrique.
On n'a pas aussi le sentiment que, encore une fois, l'Occident tout-puissant a sous-estimé l'ennemi.
Mais bien sûr, c'est du mépris. Certains diraient même du racisme. Hein, j'emploie le mot fort. Mais oui, mais il y a du mépris là-dedans. Et le mépris ne permet pas une juste évaluation de l'adversaire. C'est une erreur colossale, mais c'est vrai depuis la nuit des temps, depuis tous les conflits les plus anciens de l'Antiquité. On ne sous-estime pas son adversaire. Si on sous-estime, on s'expose à de graves désillusions. Or, je pense que Trump en est aujourd'hui au stade des désillusions, indépendamment de ses cris de victoire répétés chaque jour. Mmh. Comme pour s'auto-persuader qu'il ne s'est pas trompé. Mais je pense qu'il sait déjà, en son fort intérieur, qu'il s'est trompé. La conséquence pour lui, à mon avis, elle est grave. Il va perdre ses mid-termes en novembre, j'en suis à peu près persuadé. Je prends le risque de le parier à l'avance. Et il risque peut-être même une destitution. Parce qu'il s'est affranchi d'un certain nombre de règles de la démocratie américaine pour en arriver là. Donc je pense que c'est sérieux. Il n'a pas de vision stratégique, son état-major n'a pas travaillé. J'ai vu quelque part que son chef d'état-major des armées, du comité interarmées, le général Dan Kane, l'avait mis en garde en lui disant « Attention, nous n'avons pas les moyens d'abattre l'Iran ». Nous n'avons pas les ressources en munitions en particulier pour nos alliés, les Patriotes et autres systèmes de défense antiaérienne. Et puis quand on a des systèmes de antimissiles qui valent quelques millions de dollars et qu'en face vous avez des
Shahed à 25 000
ou des Shahed à 25 000, la disproportion est totale. Donc ça lui a été dit quand même par son chef d'état-major, mais je pense que son chef d'état-major, j'espère, ne s'est pas livré à de simples constats comme celui-là, parce que c'est très grave quand même. Moi, je pense qu'il n'y a eu aucune stratégie, aucune anticipation, aucune prévision. Or, c'est pourtant élémentaire dans ce genre de choses.
Alors, outre les frappes de riposte iranienne, évidemment, l'une des premières conséquences de cette offensive américano-israélienne, c'est bien sûr la fermeture du détroit d'Ormuz par les Iraniens.
Oui, ça aussi, ça aurait dû être prévu.
On s'étonne de voir que, quelque part, l'administration américaine a découvert ce point de pression, ce centre de gravité.
Oui, ce point stratégique. Parce que c'est stratégique.
Bien sûr.
Et ça rejoint exactement ce qu'on vient de dire, mais. Comment se fait-il que les états-majors américains, qui sont d'habitude les rois de la planification, de l'anticipation, parfois à un point d'ailleurs qui nous, Français, nous surprend dans le souci du détail, comment se fait-il qu'il n'ait pas pointé tout de suite, en lançant cette guerre, la question du détroit d'Ormuz?
Bien sûr.
C'est évident. Donc les Iraniens ont beau jeu maintenant. Puis alors, utilisant aussi nos faiblesses propres, parce que finalement, les compagnies d'assurance et la Lloyd en particulier jouent autant un rôle de fermeture du détroit d'Ormuz que les Iraniens eux-mêmes, militairement.
Donc il y a,
parce que les gens ont peur. Bon, donc les compagnies d'assurance jouent aussi leur carte, mais elles ont peur. Et donc elles transmettent la peur aux compagnies maritimes.
Et à cela s'ajoute le fait que toutes les décisions qui ont été prises à l'encontre de la Russie et sur leur énergie multiplient les répercussions, bien sûr, de la fermeture du détroit d'Ormuz, puisqu'on est d'autant plus dépendant d'alternatives à la Russie.
Et comme tout est lié, bénéficie particulièrement à la Russie aujourd'hui.
Qui permet de financer plus facilement sa guerre.
Et qui lui permet, à mon avis, de remonter ses finances à un niveau très acceptable et très suffisant, et de lui permettre de terminer sa guerre en Ukraine. Mmh. Je le pense aussi, oui, bien sûr. Parce que les interactions sont évidentes.
Alors justement, on a vu que face à cette grosse difficulté, big problem disent certains, de Donald Trump, il a appelé à l'aide les alliés de l'OTAN et évidemment la majorité a répondu qu'il n'était pas du tout partant pour s'immiscer dans ce conflit. On va écouter ce que leur a répondu Donald Trump.
Je vais vous donner une liste. Certains sont très enthousiastes, d'autres le sont moins, et je suppose que certains refuseront de le faire. Je pense qu'il y en a un ou deux qui refuseront, alors que nous les protégeons depuis environ 40 ans, pour un coût de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Nous n'avons besoin de personne. Nous sommes la nation la plus puissante du monde. Nous disposons de loin de l'armée la plus puissante au monde. Nous n'avons pas besoin d'eux. Mais c'est intéressant. Dans certains cas, je le fais presque, non pas parce que nous avons besoin d'eux, mais parce que je veux voir comment ils réagissent. Parce que je répète depuis des années que si jamais nous avons besoin d'eux, ils ne seraient pas là.
Bon, c'est un beau numéro de claquette.
Vous voulez un commentaire?
Oui.
Moi, je dis, c'est pitoyablement enfantin. C'est la réaction d'un garçon, d'un petit garçon auquel vous retirez son jouet et qui dit gna gna gna.
J'en voulais plus.
Voilà. Ben, j'en veux plus. Voilà. Mm. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord, n'a rien à voir, organisation défensive, hein, dont je rappelle qu'elle est défensive, n'a rien à voir avec les aventures militaires lointaines, orientales de M. Trump. L'OTAN s'y est déjà essayé en Afghanistan. On a vu le résultat pitoyable du retrait américain d'Afghanistan, battu, et finalement, je ne sais plus, 20 ans de guerre en Afghanistan, des milliards de dollars consentis, un certain nombre de vies, en particulier de soldats américains, sacrifiés, pour remettre les talibans au pouvoir, finalement. C'est ce qui s'est passé. Alors, je pense que la réaction des États membres de l'OTAN est une réaction sage, pour une fois. D'ailleurs, ils sont largement mouillés dans l'affaire ukrainienne pour avoir à éviter de se lancer dans une deuxième erreur stratégique. Je le pense. Donc, voilà. Et puis, si l'OTAN… vous savez, moi, je pense que… mais ça, c'est un avis personnel. Je pense que l'OTAN ne survivra pas à tout ça. Et je pense que c'est une bonne chose. L'OTAN n'avait de raison d'être que par rapport au pacte de Varsovie, qui a été dissous maintenant il y a pas mal d'années. Et l'OTAN a survécu. Et l'OTAN s'est muée, à l'époque, d'organisation défensive, purement défensive, en organisation offensive. C'est cette organisation offensive qui a provoqué la guerre en Ukraine. Donc je pense que finalement, il y aura peut-être du bon à sortir de toutes ces épreuves et de tous ces drames consécutifs qui font quand même le malheur des populations civiles qui, elles, n'ont rien demandé.
– Bien sûr. Alors, exceptionnellement, nos téléspectateurs à chaque fois ne sont pas contents, mais il faut quand même qu'on écoute de temps en temps le président français. Et je vous propose de l'entendre justement. Il évoque notamment le déploiement du Charles de Gaulle en Méditerranée et les requêtes de Donald Trump.
Nous ne sommes pas partie prenante au conflit. Et donc, jamais la France ne prendra part à des opérations d'ouverture ou de libération du détroit d'Ormuz dans le contexte actuel. Une fois la situation plus calme, c'est-à-dire une fois que le cœur des bombardements aura cessé. Nous sommes prêts, avec d'autres nations, à prendre la responsabilité du système d'escorte.
– Alors c'est un peu comme la force de réassurance en Ukraine, quoi. Oui. On vient faire le ménage après, mais on
Une fois que la guerre sera terminée, on est prêt à participer, quoi. Mais bon, alors si en même temps, faut être juste. Je préfère cette attitude-là.
Bien sûr, on est tout d'accord.
Évidemment, j'aurais aimé qu'il ait cette attitude-là à propos de l'Ukraine, par exemple, au lieu de soutenir le régime corrompu de M. Zelensky, d'encourager les tueries et tout ce qui, et toutes les destructions qui vont avec, etc. J'aurais préféré. Bon, il vaut mieux tard que jamais, en tout cas sur le Moyen-Orient, voilà. Mais c'est quand même un peu pathétique de dire qu'on va aller sillonner le détroit d'Ormuz et le golfe Persique avec nos bâtiments une fois que tout sera réglé.
Voilà. Alors cela dit, il avait envoyé le Charles de Gaulle en Méditerranée, hein, oui. Vers le détroit d'Ormuz. Oui. Je crois qu'il a été détourné, maintenant il revient.
Oui, parce que alors d'abord on m'a dit qu'il y avait...
Quelle était l'idée du déploiement initial ?
Eh bien, je ne sais pas. Je suis incapable de vous le dire.
Quelqu'un le sait.
Malheureusement. Non, mais je pense que ça aurait été très intéressant d'avoir une oreille qui traîne dans les couloirs du centre de préparation et de conduite des opérations à Ballard. Mais je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne sais pas. Mais quel était le. Montrer notre force, déployer. Le seul porte-avions que nous ayons et qui a quand même aussi ses problèmes.
Moins que l'USS Ford. Hein.
Moins que les deux monstres américains qui ont bien pâti de ce déploiement aussi. Alors ça amène une autre réflexion stratégique, hein, c'est sur l'avenir des porte-avions. Je pense que l'ère des porte-avions est peut-être passée.
– Ça tombe bien parce qu'on va en avoir un nouveau.
– Voilà, mais ça c'est un vrai sujet, mais c'est un sujet qui intéresse la défense, qui intéresse la France libre. Je préfère ce nom-là
à
Bernard-Henri Lévy ou Bernard Kouchner ou François Mitterrand, hein. C'est clair. Mais ça me paraît quand même un petit peu hasardeux. Mais ça, c'est autre chose. Ça intéresse notre défense à terme, à 10 ou 20 ans ou 30 ans d'échéance. Mais je pense que le temps des porte-avions, on le voit avec ce qui se passe. Avec la guerre des drones qui a démarré, la guerre des drones qui recouvre aussi les réalités des missiles divers et variés, jusqu'aux missiles hypersoniques invraisemblables, qui n'existait pas jusqu'à présent, c'est une révolution dans l'art de la guerre en fait. Et donc je pense que le porte-avions n'est pas forcément aujourd'hui le meilleur vecteur. Alors s'il y a un côté symbolique, le porte-avions, c'était la projection de puissance entre guillemets, et nous, il faut quand même rappeler que la France, c'est le deuxième ou premier d'ailleurs selon la manière de voir les choses, domaine maritime au monde.
Bien sûr.
Donc, et notre flotte est notoirement insuffisante par rapport aux besoins pour assurer la souveraineté de ce domaine maritime. On ne parle pas de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie aujourd'hui ou d'autres terres lointaines, mais qui sont françaises et pour lesquelles on peut avoir des inquiétudes. Ça, c'est un autre sujet. Mais...
Comment voyez-vous la suite de cette guerre ? Est-ce que vous avez le sentiment, parce qu'on sait que Donald Trump ne peut pas non plus la faire durer éternellement sans demander l'avis du Congrès, en théorie.
Oui.
Comment voyez-vous cela ? Est-ce que vous pensez qu'on va finir par arriver à un accord qui, certes, aurait sans doute pu être trouvé sans tout cela dès les négociations ?
Oui.
Est-ce qu'au contraire, on est parti sur un conflit long ? On sait que Pitek 7, dont vous avez parlé tout à l'heure, d'ailleurs, on va le regarder, qui demande une rallonge au Congrès.
En ce qui concerne les 200 milliards de dollars, je pense que ce chiffre pourrait évoluer. Il est évident qu'il faut de l'argent pour tuer les méchants. Nous allons donc retourner voir le Congrès et ses membres pour nous assurer que nous bénéficions des fonds nécessaires pour ce qui a été fait, pour ce que nous pourrions avoir à faire à l'avenir et pour veiller à ce que nos stocks de munitions soient non seulement réapprévisionnés, mais qu'ils dépassent largement nos besoins. C'est au président qu'il reviendra en fin de compte de décider quand nous dirons que nous avons atteint nos objectifs pour garantir la sécurité du peuple américain. Il n'y a donc pas de délai fixé, mais nous sommes tout à fait dans les temps.
Alors là, justement, on voit bien que c'est une guerre aussi qui va coûter très cher aux États-Unis.
C'est une guerre qui coûte très cher, qui coûte déjà très cher aux États-Unis. Et puis, il y a des problèmes techniques qui ne sont pas abordés par M. Hecsett, mais si la capacité de production d'armes offensives, entre guillemets, de missiles, etc., est réelle, et on peut relancer les chaînes, etc., c'est beaucoup plus compliqué dès lors qu'il s'agit de l'armement anti-missile, de l'armement anti-aérien, etc. C'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus cher. Sans évoquer la partie radar, qui est complexe et très chère. Les quatre radars qui ont été détruits par les Iraniens, qui sont des radars ANTPY2, je préfère regarder pour ne pas me tromper, c'est chacun 1 ou 1,5 milliard de dollars. C'est un système de défense complexe. Vous ne le reconstruisez pas comme ça du jour au lendemain. Et ça coûte très cher. Donc tout ça n'est pas vraiment pris en compte. Alors pour revenir à votre question initiale, comment ça avait évolué? Moi, je ne suis pas prophète et c'est toujours très difficile ce genre de questions parce que vous pouvez vous tromper, et puis je peux me tromper, il faut être très, avoir beaucoup d'humilité dans ce genre de choses. Je pense que, vous savez, à un moment donné, la guerre cesse faute de combattants. Ce n'est pas forcément le cas. Côté américain, parce qu'ils ont de la ressource, mais c'est le cas côté israélien. Israël a pris le risque d'ouvrir un autre front au Liban, au sud Liban. Ça s'est jamais bien terminé pour Israël au sud Liban. C'est pas la guerre du Sinaï, c'est autre chose. Le Hezbollah s'est lancé dans la guerre et c'est une armée, le Hezbollah. On dit qu'elle a été décapitée par la mort de Hassan Nasrallah. C'est pas vrai. C'est comme les Iraniens. C'est un système complexe qui se régénère très vite et qui voilà. Et on a aujourd'hui Israël, qui est un petit pays, une petite population au milieu d'une masse humaine énorme, qui ne lui est pas forcément totalement hostile. Il y a des gens qui composent, on le voit bien avec les États du Golfe et les monarchies, etc. Enfin, on est loin des accords d'Abraham aujourd'hui, hein. Et donc, on a une situation qui est, à mon avis, très, très, très dangereuse pour Israël. Donc, en même temps, il y a un facteur qui est déterminant, c'est les dirigeants. Si vous écoutez Netanyahou, Smotrich ou Ben-Gvir, qui à mon avis sont des fous furieux, ils sont capables d'entraîner leur pays dans une situation de détresse totale, voire de disparition, avec cette espèce de côté messianiste, le Messie reviendra, c'est pas le nôtre. Le nôtre était un messie de paix, j'ai l'impression que leur messie est un messie de guerre. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je ne supporte plus cette expression de judéo-christianisme qui, à mon avis, est totalement dénuée de fondement. Mais pour revenir à cette guerre, le seul qui est capable de calmer Netanyahou, c'est Trump aujourd'hui, c'est le seul qui soit capable de le faire, de lui donner un coup de règle sur les doigts en lui disant ça suffit. Alors ça va peut-être se terminer comme la guerre des 12 jours, mais la guerre des 12 jours, qui avait fait des ravages en Iran, mais qui avait fait des ravages aussi en Israël, tout le monde était content, tout le monde est très content qu'elle se termine de cette manière-là. Aujourd'hui, les Iraniens ont une position extrêmement radicalisée, il n'y aura plus de négociation, parce qu'à chaque négociation, vous nous prenez par surprise, vous nous faites le coup de Pearl Harbor, comme l'a dit intelligemment Trump à l'ambassadrice
japonaise.
Ou à la ministre, première ministre japonaise il y a deux jours, ce qui témoigne d'une pertinence de pensée remarquable, mais on ne nous refera plus le coup, disent les Iraniens. Donc, que va-t-il se passer? Moi, je pense que Netanyahou, Hecsett disent que la guerre est gagnée, que les Iraniens sont par terre. Moi, je pense que les Iraniens sont soutenus par les Russes, en matière de renseignement en particulier, sont soutenus par les Chinois en matière de technologie. On vient de signaler que des vols de Mahaner, qui est la compagnie aérienne iranienne, avait fait le trajet Pékin-Téhéran, là, il y a moins de 24 heures, plusieurs vols commerciaux, on va dire. Moi, je pense que ces vols, tous ces vols sont des vols intéressés à la défense de l'Iran, que la Chine ne laissera pas tomber. Donc, on a un risque, c'est l'embrasement général. Il y a toujours cette menace latente, diffuse, de l'arme nucléaire dont dispose Israël, même si elle n'est pas reconnue en tant que telle, qui peut à un moment donné, par la folie des dirigeants, être amenée à vouloir l'utiliser ou un coup de semonce. Je pense que l'Iran n'a pas cette arme nucléaire, mais je me réfère aux déclarations des dirigeants pakistanais qui ont dit que si Israël utilisait l'arme nucléaire contre l'Iran, le Pakistan utiliserait sa bombe nucléaire contre l'Israël. Donc on est dans… Alors bien sûr, tout ça c'est plutôt des éléments rassurants d'une certaine manière, parce que c'est la dissuasion réciproque,
oui.
Mais ça traduit aussi quand même un certain état d'esprit.
Et un certain niveau de tension, c'est le moins qu'on puisse dire.
Bien sûr, bien entendu. Et moi je pense qu'aujourd'hui on est encore loin du moment où les Iraniens vont dire « bon écoutez, on veut bien discuter ». Pour ça, je pense qu'ils veulent vraiment en mettre un coup, si je puis dire vulgairement, et amener Israël à supplier son parrain américain d'obtenir des négociations. C'était le cas il y a quelques jours, les Iraniens ont refusé, alors du coup Trump a repris l'affaire. Comme avec ce côté enfantin un peu pathétique qui est le sien vis-à-vis de l'OTAN, il dit ben non, dans ce cas-là, il n'y a pas de négociation, on ira jusqu'au bout, etc. Mais je pense qu'ils sont à court d'arguments et à court de moyens, d'une certaine manière.
Eh bien, je vous remercie beaucoup, colonel Ogar, d'être venu jusque nous. Je rappelle à nos téléspectateurs, s'ils veulent vous lire sur d'autres conflits, sur le Kosovo et sur l'Ukraine, c'est bien sûr possible sur la boutique de TVL. J'espère que cette émission vous a plu. J'espère que vous avez déjà cliqué sur le petit pouce pour nous aider pour l'algorithme. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas que je vous lis dans les commentaires. À la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien.